Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Bonjour à toutes et à tous, les connus face à l'inconnu, une heure d'interview avec une personnalité connue pour aborder sa vie, son parcours, son actualité, ses projets, et puis tous les sujets inconnus qui nous réunissent tous sur cette web radio. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Alexandre Debanne. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves.
C'est drôle, hein. C'est un micro en face de toi. Ça fait longtemps que t'en as pas vu, hein.
Alors j'ai une vision d'où je suis qui fait doublement drôle. D'abord parce que le micro, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un. Et puis derrière le micro, il y a toi en face de moi que j'ai pas vu depuis longtemps également.
Ça doit faire 15 ou 20 ans peut-être.
Écoute, passer un certain temps, on va plus compter, hein.
Ouais,
en tout cas, ça fait très plaisir d'être là et de te voir et puis de faire cette émission.
Eh ben c'est gentil parce que je sais que on te voit pas beaucoup dans les médias, t'aimes pas beaucoup parler de toi, plutôt de ce que tu fais d'ailleurs, mais ce sera aussi le cas de ta philosophie de vie. Eh bien ce sera tout ce qu'on veut dans cette émission et je te remercie d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que tu en refuses beaucoup.
Voilà. Non, à ton service.
Ah, ben écoute, c'est adorable, merci. Allons-y, puis au service de nos abonnés. Je vais vous présenter Alexandre Debanne, si par hasard vous viviez dans une grotte ces 30 dernières années et que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Mais quand même, né le 8 avril 1960, signe du Bélier, donc un fonceur. On le verra dans la vie, hein. Enfin, on peut dire que t'es un fonceur.
Un petit peu, disons que j'ai quelques cicatrices qui attestent soit de ma maladresse, soit de mon signe astrologique.
La maladresse, pas mal. Papa d'un fils, Léo, né en 2001, grand sportif et qui fait du ski en compétition.
Oh ouais.
Et qui risque d'aller loin aussi, s'il est aussi doué que son papa. Donc tu débutes ta carrière à 20 ans, du côté de Bourges, à France 3, ensuite rapidement, je vais aller vite, hein, parce que on va arriver tout de suite aux questions qui nous intéressent. Donc la télé à Bourges, rapidement la radio locale, tu crées une radio locale, tu deviens une vedette, hein, de la région.
Enfin, une voix.
Une voix, ce qui est déjà pas mal.
Juste une petite parenthèse, c'est toujours ce que j'ai préféré à la radio et que je continue de préférer par rapport à la télé, c'est que... Quand je faisais de la radio, après, enfin, tu vas sûrement en parler, mais des grosses radios nationales, j'étais une voix, il y avait beaucoup de monde qui écoutait, j'étais entre guillemets une vedette de la radio, mais je continuais à venir au boulot en RER et tout le monde me foutait la paix parce que personne savait que c'était moi.
Ça, c'est génial.
Et puis, une fois que tu fais de la télé, et tu l'as certainement vécu également dans ton parcours, après, ça change et finalement, tu te rends compte très vite que c'est une pollution.
Oui. L'image qui est rajoutée. Et moi, je trouve que, puisque tu parles de la radio, moi, je trouve que la radio et la télé, c'est comme le théâtre et le cinéma.
Oui.
La radio, c'est le théâtre. On peut pas tricher. On est sur scène. Et s'il y a pas de fond, ça s'entend. Alors que le cinéma, bon, on a une belle gueule. On connaît un peu du monde. Voilà, on refait les prises. C'est la télé où on n'est pas forcément, apte ou avoir du fond. C'est pas nécessaire.
L'avantage également de la radio, c'est que comme tu n'as pas l'image, tu interpelles obligatoirement, de par ce que tu dis, l'imagination des gens. Et ça, travailler sur l'imaginaire, sur l'imagination, ça c'est extrêmement gratifiant. Et ça permet un éventail de choses beaucoup plus importantes que ce qu'on peut faire en télé. Et en plus, pour beaucoup moins cher. Moi, je prends toujours comme exemple ce qui m'a donné peut-être l'étincelle de l'amour de la radio, c'est Orson Welles avec La Guerre des Mondes.
Ah ouais, bien sûr.
Voilà.
Qui a mis en panique un pays entier en disant
avec des bruitages.
Avec des bruitages. C'est en disant que les extraterrestres débarquaient. On est déjà dans le sujet. Tu vois, on est déjà dans le sujet des extraterrestres et des inconnus. Donc, 20 ans à Bourges, en 87, la montée à Paris avec M6, avec TF1. Tu présentes beaucoup d'émissions, La Roue de la Fortune, Vidéogag, qui t'a vraiment fait découvrir auprès du grand public.
Tu veux une anecdote?
Oui.
Vidéogag n'était pas du tout mon choix. Quand j'ai quitté M6, Jean Drucker...
87, 88,
ouais, 89... Ouais, c'est ça, Jean Drucker, paix à son âme, m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit « Réfléchis bien, parce qu'ils te font venir pour nous dépeupler. Ils ont fait la même chose avec Nagui, et ils veulent faire la même chose avec toi. » J'ai dit « Ouais, mais Jean, il me propose l'émission dont je rêve. » Et l'émission pour laquelle j'ai quitté M6 pour TF1, c'était pas vraiment Vidéogag.
Ah bon?
Non, c'était, tu te souviens de la chasse au trésor de Dieu le veut?
Totalement, ouais, avec Guy Régnier, tout ça, machin.
C'était moi, le nouveau de Dieu le veut. Il me proposait la chasse au trésor, version TF1. Ça repartait comme en 14, et c'était moi qui étais dans le rôle. On a tourné un pilote en Vallée de Chevreuse. On était deux sur le coup en finale avec Stéphane Perron. Et Dominique Ancien, qui était la directrice des programmes de TF1 à l'époque, nous a dit, on va faire in vivo, c'était la chasse au trésor, mais là, c'était plus un seul animateur qui courait après le trésor, il y avait deux équipes, avec chacun son animateur et son hélico, et c'était le premier qui arrivait sur place qui gagnait, tu vois.
Ah oui, donc l'animateur avait un rôle effectivement de compétiteur quelque part.
Exactement, d'accord. Là, il y avait deux équipes. Et donc, elle a dit, on vous met in situ, et c'est celui qui gagne qui présente l'émission. Malheureusement, j'ai gagné. L'émission ne s'est jamais faite et je me suis retrouvé parachuté à Vidéogag parce que, évidemment, j'ai signé mon contrat sans avocat. Moi, et qu'est-ce que tu veux, je débarquais là-dedans.
Bien sûr, ouais.
Sans avocat, sans rien. M6, c'était une boutique sympa, la petite chaîne qui monte. Il y avait une autre ambiance que TF1. Ouais. Et donc, j'ai signé. J'étais, en fait, corvéable à merci et je me suis retrouvé de pendu à l'hélicoptère dans des fringues Kenzo multicolores, fluo, à côté de Bernard et du chien qui remuait la queue. Et non pas l'inverse, a présenté Vidéogag pendant 6 ans.
Ah, je ne connaissais pas cette anecdote.
Je
incroyable.
Te la livre car tu es un ami de longue date.
Eh ben ouais, non, incroyable. Comme quoi, un signe du destin qui t'a amené finalement à être connu et peut-être plus que si tu avais présenté cette émission. En tout cas, ben, c'était en décalage complet avec ce que t'étais.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas signé pour aller sur TF1 pour être une star de la télé, pas du tout. J'ai signé pour une émission, pour le contenu, si tu veux.
D'accord.
Parce que la télé n'a jamais été mon premier choix, ça a toujours été la radio. La télé, j'en ai fait parce qu'on me l'a proposé et puis que je me dis tiens, c'est une aventure sympa, surtout à M6 au début, ouais, c'était vraiment super sympa. Et puis j'ai signé à TF1, pas pour du tout pour aller à TF1 parce que déjà la notoriété m'emmerdait sérieusement, mais pour faire cette émission, voilà. Et puis alors là, je me suis retrouvé dans un boulevard de popularité avec Vidéogag, la France entière regardait.
C'était
énorme, mais c'était contre mon gré. Et franchement, j'allais aux enregistrements qui avaient lieu une fois par mois, à contre-cœur, j'y allais vraiment reculons, c'est-à-dire la veille, je dormais très très mal. Vraiment, parce que c'était pas mon truc, quoi, voilà.
Alors, vous comprenez, vous qui nous écoutez, pourquoi j'ai invité Alexandre Debanne? Parce que déjà, il voulait donner du sens et que finalement, l'image que peut-être vous avez encore de lui, de Vidéogag, c'est pas du tout, mais ça, vous le savez certainement, ce qu'il est réellement au fond de lui et qu'il y a cette profondeur d'âme. Donc, 20 ans, en tout cas 87, 88, TF1, 96, cet accident de moto.
Ouais.
Qui t'a failli tout perdre, donc tu veux plus perdre de temps. Et depuis 96, t'es reparti sur une autre aventure dont un raid, le raid de l'arbre vert, qui était le raid Amazon, exclusivement féminin. Tu vas nous dire pourquoi. Ce qui serait bien, c'est de diviser cette émission en trois parties, parce que je trouve que dans ta vie, il y a trois parties. La première, jusqu'à 20 ans, quand tu découvres le micro, j'ai l'impression que c'est une seconde naissance, finalement, parce que t'as découvert la radio, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Ensuite, de 20 ans jusqu'à 96, et puis 96, après, où tu veux plus perdre de temps, où tu es réellement pour devenir ce que tu es, je vais dire.
J'ai trois accidents dans ma vie. Et donc, c'est divisé en trois, finalement.
C'est
tu vois, le chiffre 3, tu viens de me le souffler, puis je viens juste de m'en rendre compte en 2 secondes. Le premier accident, c'est le fait de n'avoir jamais pu réaliser mon rêve de môme, d'être pilote de chasse. Depuis tout petit, j'étais à fond dans les avions et je connaissais le moindre avion de par le monde par son prénom,
ouais.
Et par ses capacités. Et à tel point qu'à 14 ans, j'ai passé un concours, je suis arrivé premier du concours national et je suis entré à l'école militaire préparatoire d'Autun. J'étais enfant de troupe à 14 ans, je portais l'uniforme et j'étais super bien noté. Tout allait bien, j'avais un an d'avance, tout allait bien. J'étais même champion de tir du collège. Et d'ailleurs, j'évoque ce détail sur le tir parce que c'est rigolo, puisque le premier accident a eu lieu à l'hôpital militaire de Dijon, où le médecin colonel qui faisait passer les examens, parce qu'après je voulais passer sur une école
militaire.
Non, j'étais déjà dans une école militaire, mais je voulais passer les tests pour être pilote, pour commencer très tôt. Et il s'est pointé, puis alors ça a été très vite. Il m'a dit, c'est vous le pilote? Oui, mon colonel. Eh ben, va falloir penser à faire autre chose. Crac, fin des bancs, premier accident, je me suis pris le mur de face.
Et pourquoi?
Parce que j'avais pas la vue suffisante. Il faut être une espèce de...
À défaut d'être 15 un vrai con,
il fallait être un faux con.
Ouais, d'accord.
Et à ce niveau-là, j'étais doté ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, du coup, j'ai été recalé. Et là, je me suis retrouvé devant un vide abyssal à 14 ans, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? La radio est arrivée à ce moment-là.
Tu crois au destin? Tu crois au signe du destin?
Si tu veux...
C'est bien enchaîné. Est-ce que tu crois au destin? Ça, c'est intéressant parce que t'aurais pu partir dans une direction. T'as rencontré d'amis d'autres.
Je crois au pilotage.
Au pilotage de qui?
Je crois au pilotage de sa vie.
Il n'y a pas une entité supérieure qui va mettre des couleurs dans ta vie, c'est vraiment toi qui décides?
Je crois qu'on pilote sa vie et qu'on n'a que ce qu'on mérite.
Oui, mais Alexandre, tu n'es pas responsable du fait que tu n'aies pas une vue suffisante pour être pilote. C'est bien un signe du destin qui fait non, mon garçon, tu n'iras pas ici.
Je crois qu'on fait avec ce qu'on a et puis avec ce qu'on n'a pas également. Et comme tu disais, on parlait de.
Avant de préparer l'émission.
Voilà, de gens qui avaient plein de talents. Je pense qu'on a tous du talent, ça j'en suis persuadé. La difficulté est de mettre la lumière dessus. Et je crois qu'on n'a pas qu'un seul talent, on en a plusieurs. Et je crois que bah, finalement, la façon d'être le plus heureux dans la vie, c'est d'arriver à éclairer au moins un de ses talents et de s'y consacrer. Comme ça, au moins, on est heureux d'en faire sa profession. Et comme ça, on est heureux pendant toute sa vie professionnelle de pratiquer ce pour quoi on est fait. Je suis persuadé qu'on est tous faits pour, qu'on a tous des facultés particulières pour quelque chose, quelle qu'elle soit, et pas qu'une, plusieurs. Le problème aujourd'hui, je pense, c'est la distorsion qu'il y a entre ce que les médias imposent, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il y a une espèce de pensée unique, je trouve extrêmement misérable par rapport aux facultés du cerveau humain, qui fait que bah, aujourd'hui les gens vont tous dans les mêmes filières parce que c'est à la mode, parce que c'est si, sans s'écouter eux-mêmes, alors qu'il suffit simplement, enfin il suffit, c'est un travail, mais c'est bien d'essayer de s'écouter et de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. De faire, finalement, d'essayer. Au moins d'essayer.
Voilà. Au moins d'essayer.
Ouais, oui. Au moins d'essayer.
On n'a pas le droit de ne pas essayer, oui, c'est vrai.
Bah, déjà, de chercher. Et ensuite, une fois qu'on pense avoir trouvé son talent ou un de ses talents, bah, d'essayer de le pratiquer et puis d'orienter sa vie vers ça, quoi. Voilà. Et de ne pas écouter le chant des sirènes.
Quand on a cette capacité que tu as à transmettre, à communiquer, à entrer en contact avec les gens, parce que c'est ça le métier finalement d'animateur ou de personne qui a envie de transmettre sa passion, tu t'es rendu compte tout de suite que tu avais cette capacité à capter l'attention des gens, à transmettre?
Non, pas trop. Non, parce que alors, moi, j'étais, je vais dire, à l'école, j'étais extrêmement effacé. Hein, on me voyait pas du tout.
Ah bon?
Ah ouais.
T'étais pas le...
Ah, pas du tout, non.
Le chef de classe, tout ça?
Ah d'accord. Non, loin de là. Non, moi, j'étais complètement effacé. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'amour des mots. La tchatch, on va dire, la répartie. Ouais. Voilà, ça, c'était mon sport de combat. Très rapidement, vu que je suis plutôt gaulé fin, on va dire.
Monter fin, comme disaient les pêcheurs.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte que là, il risquait, dans la cour de récréation, d'avoir certains problèmes, parfois, comme bah, c'est normal, hein, dans toute vie scolaire. Et puis, bah, finalement, je me suis rendu compte, comme l'appelle... C'est Laurent Baffy qui a trouvé un nom là-dessus. Il appelle ça le « je te chie dessus ». C'est un art martial axé sur la vanne. Et,
« je te chie dessus », j'adore.
Ouais. Le grade maximum est à la ceinture marron, tu comprendras pourquoi. Mais en tout cas, ça marche bien et lui, il en a fait. Enfin, il est particulièrement doué pour ça.
J'espère qu'il viendra, Laurent Baffy. Hein. Si tu peux le faire venir dans cette émission, j'adore.
Il ne peut rien me refuser.
Je suis grand fan. Question : qu'est-ce que pour toi l'inconnu et quel sentiment accompagne l'inconnu pour toi ?
Ben, l'inconnu, c'est demain. Et j'ai hâte d'y être.
Ouais.
Ouais. Enfin, en sachant que je profite à mort d'aujourd'hui et que je sais que demain va être une fête également. Et donc, ouais, l'inconnu. Et je veux surtout que demain reste inconnu, quoi. Je veux surtout pas voir.
Tu veux dire que t'as jamais été voir les médias?
Je préfère circuler à la frontière. Si tu veux, voilà. Moi, je roule à pied au plancher. La nuit, pour moi, c'est un peu dans la nuit. Et je tiens à ce que ça reste la nuit. Et je roule à 200 sur une route de montagne à la frontale.
Et d'accord, j'aime bien ça. Ouais, ça c'est, ouais. C'est tout Alexandre de Bannes, ça. Hein.
J'aime bien.
C'est un bélier, je vous le rappelle. Hein.
Ouais, mais j'aime bien pas.
C'est l'image, en tout cas.
C'est ouais,
l'image.
C'est ça. Ouais. Ouais,
c'est donc aller voir une médium, toi, c'est pas ton truc.
Si, c'est amusant.
Tu l'as déjà fait?
Ouais, bien sûr.
Bah ouais, mais c'est paradoxal. Tu dis que tu veux pas trop voir ce qu'il y a loin et en
mais
même
ça
temps.
Mais ça veut pas dire que j'y crois.
Qu'est-ce que la dernière fois que t'étais en voir une, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est il y a longtemps?
Ah ouais. Non, mais
c'est quand on est jeune, quand on fait, doute un peu du futur, on a envie un peu de se rassurer en allant voir une médium, non, c'est ça?
Ouais, mais en fait, j'ai jamais cru à ces trucs-là, je crois. J'ai toujours cru potentiellement à... Enfin, c'est parce que c'est mon père, mes parents, surtout mon père qui m'a inculqué ça. Ce qu'on obtient, c'est par le boulot, quoi. C'est en bossant, c'est pas par hasard, en disant t'es fait pour ça, ça va arriver tout seul. Non, moi je préfère bosser pour, comme ça au moins je suis sûr que j'ai des chances.
Ouais.
Ça veut pas dire que je vais y arriver, mais au moins je fais ce qu'il faut pour. Ça crée... c'est comme, bah, tu vois, c'est comme le vélo. C'est un truc que je pratique pas parce que ça fait mal au cul, mais il paraît que c'est très, les 1500 premiers kilomètres sont horribles et après c'est du bonheur. Pourtant, je le fais pour la vie, on va dire, mais pour le vélo, non.
Non, je me souviens d'une de tes phrases en parlant du tennis. Tu dis, ce sport ne m'a pas rendu tout ce que je lui ai donné. Tu y as passé beaucoup de temps et finalement.
C'est un sport avec moi, d'une ingratitude sans nom. et c'est pour ça que je persévère. Parce que justement, comme je ne suis pas fait pour le tennis, c'est un challenge pour moi que d'y arriver quand même. Enfin, pas à un haut niveau, c'est évident. Ouais. Hein, mais au moins d'y arriver quand même, de forcer ma nature. Si tu veux, voilà. Il y a une vraie satisfaction. Je crois, enfin, c'est vraiment le cerveau qui fournit tout. Hein. Il y a une vraie satisfaction à réaliser des choses et de se donner du mal pour, si tu veux, voilà. Il y a
de repousser ses limites.
Pas forcément, mais de mettre de la sueur pour obtenir un gain. Tu vois, c'est-à-dire voilà, c'est pas forcément un devoir, c'est pas une obligation. Moi, je joue au tennis, mais c'est juste, c'est un exercice que je m'impose.
D'accord.
Parce que je sais pas faire, parce que je suis pas doué pour. Mais je le fais quand même pour forcer ma nature et pour m'améliorer contre mon gré, pour essayer de voilà. C'est une façon de s'améliorer.
Ouais, d'accord, s'améliorer dans tous les domaines, de travailler son mental.
Oui, mais ça, voilà, exactement. Mais ça, alors là, c'est le tennis, ça peut être plein d'autres choses. Mais d'accord. Généralement, je me suis rendu compte, parce que je fais les choses instinctivement, je ne me rends pas compte, mais parfois, maintenant, de plus en plus, avec l'âge, je me regarde, je m'analyse.
53 ans, ça va. Ouais, il est bien,
bientôt,
il est bien.
Bientôt 54.
Non, 8 avril.
Je me rends compte que j'ai plutôt tendance à aller vers la difficulté.
C'est marrant, parce qu'avec l'âge, on va plutôt vers la facilité, et toi, c'est le contraire.
Eh ben non, je vais plutôt vers la... J'ai toujours été vers la difficulté, ça m'a toujours paru normal, voire rassurant.
Le confort, c'est pas pour toi.
Je suis pas à l'aise. Tu vois, par exemple, gagner à l'Euromillion, ce serait vraiment une catastrophe pour moi. Mais vraiment, je le dis sincèrement.
Ouais.
Mais oui.
T'aurais plus de motivation pour te battre pour quelque chose.
T'as plus d'envie. Tu peux avoir tout. Alors que.
Ouais, mais à ce moment-là, tu te consacres totalement à ton fils. Cela dit, ouais, tu voyages.
Mais je préfère choisir. Enfin, je me consacre déjà.
Ouais, beaucoup à ton fils Léo, j'imagine. Ouais.
Non, mais je veux dire, je veux rester maître de mes envies. Je veux pas qu'on me les impose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le fait de trop avoir, tu me dis, t'as qu'à donner à tout le monde. Oui, effectivement, ça pourrait être une solution. Mais est-ce que, et là, ça rejoint quelque chose dont on parlait en off tout à l'heure, donner, il faut pas donner à n'importe qui parce que c'est la meilleure façon de se faire des ennemis.
Alors ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on a eu une conversation dans cette émission qui était passionnante sur les personnes que tu as croisées dans ta vie professionnelle, que tu as aidées. Et non seulement t'as pas eu de retour, mais t'as été carrément poignardé.
D'abord, chaque fois que j'ai aidé quelqu'un, c'était pas pour avoir du retour.
Déjà
simplement parce que j'ai trouvé sympa et que je me disais, attends, il y a de la place pour tout le monde, hein, allons-y, vas-y, monte.
Monte sur le podium avec moi, ouais, c'est ça.
D'abord parce que j'en ai bénéficié, moi, hein, on m'a tendu la main, on m'a fait monter. Donc, quelque part, une fois, quand tu vis ça, t'as envie de... Tu te sens quelque part le devoir de transmission de ce geste, tu vois, de générosité. Bon, puis après, faut pas faire d'erreur de casting, parce que si tu donnes à quelqu'un qui pense pas pareil ou qui réagit pas pareil, après il t'en veut si ça marche pour lui, parce que tu l'as aidé au départ et tu l'as fait monter, puis qu'après ça marche parce que quelque part il a aussi du talent pour que ça marche. Hein. La personne peut t'en vouloir, effectivement, ça peut créer des situations à l'inverse de ce à quoi tu pourrais t'attendre.
Il faut pas donner à n'importe qui.
Non, ça, je te le signe quand tu veux. une vérité.
Je prends.
Alors, deuxième accident, je te parlais des accidents. Celui-là.
On en parle dans quelques secondes.
Ok.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Donc, deuxième accident. Celui-là, beaucoup plus concret, parce que le premier accident, c'est juste parce que t'as une vue qui est pas suffisante pour être pilote de chasse.
Ouais, celui-là, j'y peux rien.
Ouais. Celui-là, il fait mal, dans tous les sens du terme.
Ouais, au début déjà. Oui.
C'est accident de moto en 96 et tout seul.
16 juin 96. Mon père vient d'être à la retraite. Je suis issu d'une famille de motards. Mon père est, ils sont tous plutôt moto anglaise, sauf mon père qui est moto allemande.
Personne n'est parfait, Alexandre. On peut pas lui en vouloir non plus.
C'est ce que je me suis dit.
C'est le Joe Bartim, ça.
Voilà, c'est exactement ça. Donc. Je prends une BM 1100 RT et je vais lui faire la surprise. Je lui amène à Bourges, puisque mes parents étaient à Bourges. Et je prends la route par ce petit matin de juin magnifique, à la fraîche, il fait beau, la route est sèche, tout baigne. Et je loupe un virage à Montargis, une 4 voies, un truc incompréhensible. Je suis persuadé que je suis pas allé au tas tout seul, parce que je garde aucun souvenir. J'ai fait 12 jours de coma artificiel. Cet accident a été la chance de ma vie.
Non mais voilà, ça paraît fou dans les signes du destin. Alors tu me dis, je crois pas aux signes du destin, je crois au travail, je crois à tout ça. Alors transformer quelque chose de négatif en positif, d'accord?
Non mais si je crois à quelque chose, effectivement, c'est que je pense que... Alors je nomme pas les choses et je ne crois à rien de tangible ou de concret ou de très bien défini. Mais je pense que ma vie m'a remis violemment sur mes rails. Parce que j'étais mal barré, j'étais à TF1. Ça partait en live, j'étais pas heureux, j'étais pas bien.
Et pourtant, il faut le dire, tu gagnais très bien ta vie, t'étais
connu.
C'est ce
que j'allais dire.
Non
mais on me saupoudrait de fric et de notoriété, qui sont deux choses après lesquelles je ne cours pas. La notoriété, pour moi, c'est une pollution. Vraiment, ça m'emmerde. À l'époque, à TF1, je pouvais plus aller faire mes courses normalement. Les transports en commun, c'était obligé. Du coup, je mettais deux fois plus longtemps pour aller où je voulais aller parce que les trafics dans Paris, c'est l'horreur. Et le fric, j'ai jamais couru après le fric. Je crache pas dessus, mais pour moi, c'est juste du carburant de la vie. L'argent, c'est pas une finalité.
Donc, t'étais dans une voie finalement qui était pas la tienne.
De garage,
alors que tous les voyants étaient ouverts. Et la vie te ramène avec cet accident violent sur un chemin qui te correspond. qui est différent, qui est
sûrement... me ramène vers un point d'interrogation qui est tout simplement.
Qu'est-ce qui se passe? Donc 96 accidents, 12 jours de coma. T'as pas eu des sorties de corps, des choses comme ça pendant le coma? T'as des souvenirs, des choses comme ça? Rien du tout.
Bah en fait, coma artificiel, c'est haute dose de morphine. J'ai fait des rêves éveillés.
C'est ça.
Quand je suis sorti, quand ils m'ont sorti du coma, quand ils m'ont réveillé, je racontais des trucs hallucinants aux gens qui venaient me voir. Ils me regardaient avec l'air extrêmement peiné. Ils disaient, bah, ça y est, il est parti, hein. Il reviendra pas tout de suite, hein.
Donc, en fait,
j'étais drogué jusqu'à l'os.
C'est ça, ouais. Donc, une des hallucinations, quoi, en fait.
Drogué aux frais de la collectivité. Je remercie tout le monde, hein. Merci Yves, tu as cotisé. Bah,
j'ai cotisé pour la morphine.
À travers la sécurité sociale, qui est un sacré bon dealer, hein, j'avoue. C'est de bonne qualité. J'ai fait des bons trips, hein. c'était médical, donc. C'est vrai que.
Bon, ça m'a amoché quand même, la hanche, la jambe.
Professeur Saillant s'occupe de moi. Il me dit, là, c'est l'heure de l'addition. Il vire tout le monde de ma piole. Il me dit, le sport t'oublie. Tu vas te remettre debout, mais tu risques de boiter très fort. T'es en vie, c'est déjà bien. Et on t'a sauvé la jambe. Bon. Et là, tout ce qu'il me dit, ça dure quoi? Ça m'a paru long. Et j'ai dit, c'est bon là, t'as fini? Et il me fait, ouais. Et là, je me suis mis en colère. Attends, quelqu'un qui te parle comme ça, moi j'ai pris ça pour des vraies menaces, quoi. Donc je me suis mis en colère.
Contre le professeur? Non, contre la vie.
Contre tout.
Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est dégueulasse, je mérite pas, machin, etc.
Non, mais j'aurais tout envoyé chier et je me suis mis quand je te dis la colère, le mot est faible, je me suis mis dans une rage qui est toujours là. Elle est toujours là, cette rage. Je la convoque dans la seconde. C'est assez étonnant d'ailleurs, quand je repense à ça, mais je me suis mis dans une rage comme jamais de ma vie, et Dieu sait que j'ai découvert des grandes capacités à ce niveau-là. Ouais. Et c'est ce qui m'a sorti à toute vitesse du problème. J'étais soi-disant là pour 2 ans à l'hôpital, 6 mois TTC plus tard, rééducation incluse, je marchais.
Ce que tu aurais dû faire en 2 ans, par la rage intérieure, tu l'as fait en 6 mois, et t'as surmonté des problèmes physiques grâce au mental. Ça nous intéresse.
Tout le monde là. Alors, ce que j'ai fait après, parce que c'est comme quand on te tend la main, je te disais tout à l'heure, il y a des choses dont tu te sens redevable. Moi, je pense avoir découvert un truc en vivant ça. Puis, j'ai fait médecine pendant 6 mois, H24, hein, puisque j'étais cloué dans mon plumard. Pendant 4 mois, allongé sur le dos. Quatre mois sur le dos, H24, avec une broche qui me traversait le tibia, c'est une douleur de ouf, parce que j'avais demandé de me couper la morphine au bout d'un moment, avec la jambe en l'air, H24 pendant 4 mois.
En traction, donc.
Ouais, ça fait long, hein. Ouais. Mais j'ai vu tellement pire que moi que, si tu veux, je m'estimais parmi les privilégiés, hein. À l'hôpital, tu vois toujours pire que toi.
On relativise toujours dans ces cas-là. Ouais,
évidemment.
Ça, et ça t'a amené... Moi, je reviens sur ces 6 mois. Je savais pas que c'était aussi rapide, cette rééducation.
D'ailleurs, j'avais fait un pari avec le professeur Roubi, qui était le responsable des urgences de la Pitié-Salpêtrière, du service des soins intensifs. Ouais. Un monsieur avec des très belles moustaches, un mec super, d'une humanité sans nom, avec son équipe. On avait fait un pari. Je dis, moi, cette année, et j'avais dit ça aussi à Saillant, on avait parié une bonne bouteille. Et j'ai dit, cette année, c'est moi qui me fais mon cadeau. Je reviens, je marche. Et au maximum, j'aurai une béquille. Et là, ils m'ont regardé tous les deux. Ils m'ont dit, c'est bien d'y croire, mais il ne faut pas mettre la barre trop haut de peur d'être trop déçu. Et j'ai dit, on tape là, puis on verra bien qui a raison. Et j'ai triché, j'aurais bien niqué la gueule. Je suis arrivé avec 2 béquilles à l'entrée des soins intensifs. Et j'en ai laissé une à l'entrée. Je suis rentré avec une seule béquille.
T'as dû avoir mal de chien.
Non, ça allait. J'avais juste peur de glisser et puis de tout me repéter parce que c'était très fragile. À l'époque, quand je suis sorti du truc, je pesais 55 kilos. Hein. C'était déjà que j'étais pas gros, mais alors là. Et là, j'allais vers le professeur Roubi, là, dans son bureau. Puis là, j'entends une voix derrière moi. Elle me dit, non, je crois pas. Là, je me retourne. Gérard Saillant, le professeur qui était derrière. Et il vient à moi. Et il me tourne autour. Tu sais, comme un lion affamé autour de la gazelle blessée. Et là, il me regarde autour. Il me fait, vas-y, marche. Mais tu boites même pas. J'ai dit, non. Il dit, mais comment tu fais? Et j'ai dit, j'avais un pari en ligne de mire. Et là, maintenant, les mecs, vous allez passer à la caisse. Et c'est descendu la bouteille.
Énorme. Alors, donc, le mental peut sublimer le physique?
Alors après, je suis passé dans ce que j'ai dit à l'équipe, à ces équipes formidables de médecine. On dit souvent qu'ils sont formidables, mais je t'assure qu'ils le sont parce qu'ils sont confrontés à ce qu'il y a de pire. Et je leur dis, moi, je sais pourquoi je m'en suis sorti. Laissez-moi porter la bonne parole à ceux qui ont un coup de mou mental. Vous me dites, vous m'appelez et moi j'interviens tout de suite.
Priorité. Dans l'idée de transmettre toujours.
Ouais. Et donc ils m'ont appelé. Bon, après ils ont arrêté de le faire, mais ils m'ont appelé quelques fois. Je sais plus combien de fois, mais enfin ils m'ont appelé. Ils m'ont dit voilà, là on a des, là on a un client là.
Faut le remonter un peu.
Ouais, faudrait le remonter. Et j'ai dit ok d'accord. Et là j'arrive. Et puis bah il y a eu quelques scènes d'anthologie quand même où j'ai viré la famille et je les ai. En fait le truc, je les engueulais.
Faut te bouger maintenant.
Non, mais j'ai engueulé, j'ai traité comme du poisson pourri, puis après avec explication quand même. Et puis bah ça a marché.
Profondément humaniste ça.
Bah moi j'ai toujours aimé les gens. Hein. Moi j'aime bien les gens. Ou je les aime ou je les déteste. C'est-à-dire que j'ai une allergie comme la plupart des gens, mais moi elle est très peut-être plus exacerbée que les autres. J'ai une très grave allergie aux cons, hein, vraiment. Je suis capable de mettre dans des.
Tu partages ça avec Buffy, hein, parce que lui, ah ouais, con. Il dit je parle pas aux cons, ça les instruit.
Ah ben ça c'est
de l'audiard. C'est une grande phrase, mais c'est de l'audiard, mais il le reprend souvent.
Mais c'est oui, bah c'est Audiard.
c'est la classe.
Il fait partie de mes livres de chevet, mais si tu veux, mais c'est j'ai un vrai problème avec ça quoi, et je trouve qu'en France malheureusement on a des attitudes, je dis pas que les gens sont cons mais les attitudes le sont énormément, et ça c'est coupable, on est capable de tellement mieux, on a du mal à cohabiter. Moi je voyage pas mal, je vais dans des pays où il y a beaucoup de gens également, mais ça se passe bien, pourquoi eux pas nous, je comprends pas. En plus on a beaucoup plus, mais peut-être ouais, qu'on est beaucoup moins, certainement.
On a beaucoup plus, mais peut-être qu'on est beaucoup
moins.
J'ai rien
inventé.
Ça, j'aime bien.
C'est une belle phrase. Ça se vérifie. Ouais, j'ai pas inventé, mais c'est la. Mm-hmm. Voilà. Le problème, c'est qu'on se crée des besoins superflus.
Alors, pour en revenir à 96 et ce qui suit derrière, c'est que tu dis bon, alors la vie d'avant, en laissant une vie matérielle quand même très confortable.
Ah ouais, juste, alors là, j'ai sauté dans le vide.
Alors là, t'as plus que sauté dans le vide, parce que les contrats, l'argent, la notoriété.
Ah, tu peux rien.
Tu as tourné le doigt de tout ça pour aller vers un inconnu, du coup. T'as vraiment laissé le matériel pour l'immatériel. On est complètement dans les sujets qui nous intéressent.
J'ai vécu un pur moment de rock'n'roll.
Vas-y.
Au 13e étage de TF1 de la Tour. De
face
la tour
à Étienne
Mouzot. Face à tous les décideurs. Ils étaient là. Et donc il voulait me voir, il m'a dit voilà. Et là j'ai entendu cette phrase qu'à TF1 je pense qu'il prononce pas souvent. Il me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir
après ton accident?
Deux coups de match, le passage aux 20h, si tu veux, ils ont bien orchestré la mousse, la chantilly autour de l'accident, et après ils se sont dit bon bah maintenant super,
on va rentabiliser.
Maintenant il est au point, on va rentabiliser, il va faire quoi qu'il fasse. Et là je leur dis bah j'arrête. Il y a eu un blanc. Et dans ma tête, il y avait un riff de guitare de hard rock qui valait du Angus Young, mais
AC/DC à fond,
poussé quoi. À fond, ouais, vraiment. Et c'était un pur moment de rock'n'roll parce que c'est là que j'ai pris ma vie en main. Et c'est une petite voix j'avais une petite voix dans la tête qui me disait bah non, tu dis non. Et j'étais là et j'avais bien pleinement conscience de ce qu'on me proposait.
De l'instant historique dans ta vie.
Ouais. Exactement. Ouais. Je savais que c'était important et ma décision était prise avant même que je le sache.
C'est-à-dire?
Bah, cette petite voix, mon inconscient, c'était moi, hein. Mais sauf que ça venait de loin, de très très loin. Bah, ça venait du plus profond de moi tout ça pour ça. Enfin, tout ça pour quelque chose. J'allais pas solder tout ce que je venais de traverser qui était, enfin, j'ai eu le temps de réfléchir, hein, du fond de mon plumard. Dire, bon, bah voilà, c'est une opportunité. De faire autre chose, finalement, si je fais le bilan de là où je suis et de ce qui m'attend. Mais en même temps, quand on te dit ça à 13e étage de TF1, on dit qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Là, tu vois juste l'autoroute du soleil sur le plan professionnel. Tu dis, bah, ça y est, là, je suis parti, quoi. Là, c'est parti pour longtemps. Et non.
Et tu refuses.
Je refuse. Et tu peux pas savoir la libération, le sentiment, l'espèce de vague de liberté qui m'a inondé à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis vu vraiment sur une autre planète que tous ces gens-là. Je les ai vus tels qu'ils sont, c'est-à-dire malheureux, finalement, pas dans leur vie, juste à courir après des chimères et du superflu, tout ce qui fait pas la vraie vie. Et moi, je me suis vu, j'ai vu mes chaînes brisées, je me suis brisé moi-même mes chaînes, je me suis affranchi de tout ça.
Donc, tu as essayé un petit peu du théâtre, tu t'es cherché, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup tourné.
J'ai fait du théâtre, parce que j'avais envie depuis longtemps de faire ça. Donc, voilà, j'ai joué dans deux pièces, comme j'ai pu.
Et je me suis éclaté. Tu marchais normalement, là, quand même. Tu faisais gaffe.
Ouais, je faisais vachement gaffe. J'étais très fragile, quand même, des jambes. Donc, tout le monde faisait super gaffe. Je regardais vachement, je foutais les pieds pour pas glisser. Enfin bon, ouais, j'étais assez parano des escaliers.
On n'a pas envie d'y retourner, quoi. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça, surtout pour une connerie. Et donc voilà, je me suis fait plaisir au théâtre. Et puis, ben, après, j'ai arrêté. Et j'ai eu cette idée. J'ai eu cette idée de du raid
l'arbre vert, Amazon l'arbre vert, du nom du sponsor l'arbre vert. On est en 2000. Ouais. T'es invité à un raid.
Ouais.
Dans une équipe mixte. Et qu'est-ce qui se passe?
Moi, je suis invité. Je participe pas au raid. Je suis le parrain. C'est une association qui a pour but de rendre un peu plus citoyens les jeunes difficiles de banlieue.
D'accord.
Et donc ça se passait en Guyane et c'était un raid aventure, donc course à pied, canoë, VTT, en équipe mixte. Et là donc bon, t'imagines quand même le type de phrase qu'on peut entendre, les mecs étaient énervés et ils voulaient tous être ils étaient très musclés de la langue.
D'accord, ouais.
On allait voir ce qu'on allait voir. Et puis bah finalement on a vu et eux aussi ils ont vu exactement ce qu'ils étaient, c'est-à-dire pas grand-chose, qu'ils avaient beaucoup à apprendre. Alors ça passe par une phase d'humiliation et ensuite une phase d'humilité. Et c'est là après qu'ils apprennent. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Parce que c'est des bons.
Dans des situations extrêmes, c'est ça.
Mais ouais, parce que c'est tous des bons, quoi. Ils sont tous bons. Donc voilà, ils vont chercher au fond d'eux-mêmes et puis finalement ils se révèlent. Et puis ils font voler en éclats toute cette apparence de macho, etc. qui peuvent se donner. C'est des bons mecs. Sauf que les petites nanas qui se faisaient pourrir les premiers jours parce qu'elles ramaient pas assez, parce que c'était des boulets, etc. Bah au deux ou troisième jour, quand les mecs étaient rincés. Ils criaient pitié, pitié, on veut rentrer. C'est les petites nanas qui ont pris le leadership sur leurs équipes. Elles ont commencé à mal parler aux garçons en disant « Tu parles encore, tu rames encore, sinon tu te tais et puis tu dégages. » Et elles ont amené la barque au propre comme au figuré jusqu'à l'arrivée. Et c'est là que je me suis dit « Ah, finalement, les raids d'aventure mixtes, il y a toujours une fille imposée dans le règlement. » Ça m'a toujours choqué, ça. Je veux dire, une fille obligatoire dans l'équipe. Même au raid gauloise, hein, c'était ça. C'était une fille obligatoire, genre chacun son boulet. C'était exactement ce que ça voulait dire. Moi, ça m'a toujours choqué, ça. Et finalement, je me suis dit, mais c'est elles qui ont raison. C'est ce type d'épreuve, c'est vraiment fait pour les femmes. Parce qu'elles ont, plus que les hommes, les capacités d'arriver au bout d'amener tout le monde au bout. Et donc, je me suis dit, ça n'existe pas, un raid que pour les filles. Eh ben, je vais le faire. Sauf que je ne vais pas faire un raid extrême. Je vais faire un raid accessible sur le plan sportif. Je veux que Madame Tout-le-Monde puisse participer. Mmh. Je veux que ce soit accessible sur le plan financier. Et je veux aussi que ce soit un voyage. C'est-à-dire que je veux tout, en fait, je ne veux pas tout miser sur le sport. Le sport va être un moyen. Et le mot qui, depuis ma première idée et jusqu'à maintenant, et de plus en plus détermine cet événement, ce raid Amazon, c'est la découverte.
La découverte
de soi-même à travers le sport. D'accord. Et à travers les autres qui participent aussi, et les autres participantes, les filles de leurs équipes, elles sont trois par équipe, mais également les autres équipes, parce qu'il y a une vraie empathie, une vraie solidarité féminine, et également la découverte d'un pays, d'une culture, d'un peuple, etc., etc.
Oui, parce que les femmes n'ont pas cet esprit de compétition masculin.
Si, elles l'ont.
Oui, mais pas autant que les hommes,
non.
Pour battre les autres, pour être le premier. C'est important, mais c'est pas primordial.
Elles ont la conscience, ce qu'elles recherchent, c'est d'aller à leurs limites, en équipe, de partager ça, ce moment-là, de s'entraider, et même au-delà de leurs équipes, avec les autres équipes, des nanas qui ne connaissent pas, hein,
ouais.
Une qui est mal, tout le monde s'arrête chez les mecs.
Solidarité.
T'as un mec pareil, par terre, dit « chouette, un de moins
».
Là, non, là, c'est pas ça du tout. Là. Les, filles,
beau, ouais.
Les filles, elles s'arrêtent, et puis elles disent « ça va, on peut t'aider, qu'est-ce qui se passe, etc. »
On aime ces valeurs, ouais, tout à fait.
Les filles, et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elles, moi, je les accouche d'elles-mêmes grâce à cet événement, parce que ça, c'est un truc qu'elles ne savent pas sur elles.
Oui, parce que ce sont pas des professionnels des raids. Hein,
non, pas du tout,
ce
mais même
des amateurs
oui,
qui
oui.
arrivent, qui se réunissent.
Maintenant, elles sont de plus en plus préparées. Hein.
Ouais.
Bon, c'est toutes des nanas qui ont un métier, un mec, des enfants. Enfin, tu vois, elles ont une vie, quoi.
De ce que j'ai lu, c'est moitié qui en ont déjà fait, moitié qui découvrent chaque année. Hein.
Mais
donc un renouvellement à 50%, c'est important quand même.
Oui, complètement. Hein. Ouais. Mais elles se découvrent ses facultés. Il y a notamment plein de nanas qui disent, je viens, mais je pense que je vais pas du tout apprécier parce que moi je m'entends bien avec les mecs. Mais pas avec les filles. Et alors là, je me marre dans ces cas, je dis, écoute, on en reparle dans une semaine, ça c'est au début. J'ai dit, on en reparle dans une semaine. Et puis, à la fin du raid, on en reparle, effectivement, elles ont complètement changé d'avis.
Ah
et
ouais.
Quelque part, avec cet événement, je me suis rendu compte que c'était peut-être inconscient, mais en tout cas, je transmets ce que j'ai appris à travers mon accident, de façon moins traumatique pour elles, à travers une difficulté. Et je leur donne une pleine conscience d'elles-mêmes et peut-être une nouvelle envie parce qu'elles vivent des moments tellement formidables. Et là, je le dis en toute humilité parce que c'est pas moi, c'est ce qu'elles fabriquent elles à elles toutes en termes de, d'ambiance, de valeurs humaines, ça c'est elles qui font ça. Et c'est tellement génial ce qu'elles donnent et ce qu'elles vivent ensemble que quand elles reviennent à leur vie quotidienne, si jamais cette vie-là ne leur plaît pas, que ce soit leur vie de couple ou leur vie professionnelle, il y en a, parce que les filles sont vachement plus radicales que nous, il y en a un paquet qui ont tout fait voler en éclats. Soit elles ont viré leur patron, soit elles ont viré leur mec. Soit elles ont viré leur métier et elles sont... j'en ai pas mal, hein. En 13 ans, il y en a qui ont carrément changé de vie, qui sont barrés de la France, qui étaient dans le marketing, dans la communication et qui font maintenant dans la poterie ou dans complètement autre chose, un métier artisanal de main, etc. Et elles sont heureuses.
Finalement, ce qui t'est arrivé à toi avec ton accident,
c'est ce que
comme
je transmets
tu,
à travers
tu,
ça.
Tu le transmets à travers ça.
Ouais, ouais.
Hein, c'est pas, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de profondeur qu'un simple raid qu'on emmène avec
sauf du sport.
C'est tout sauf du sport. Il y a beaucoup plus de choses. On est toujours avec Alexandre de Banne pour une vingtaine de minutes.
Les connus face à l'inconnu avec Yves Cara.
Alors, tu as beaucoup voyagé. Tu dis que effectivement t'es assez pragmatique, tu crois en toi, ton travail, mais n'empêche dans toutes les populations, dans toutes les civilisations que tu as dû rencontrer, il y a quand même des choses un petit peu, je dirais, qui font partie du domaine de l'inconnu, qui ont dû t'interpeller. Alors des chamans, des choses, des rites peut-être. T'as dû voir ça, non?
Quand tu me parles de ça, je pense surtout à une tribu anthropophage avec laquelle je suis resté pendant 15 jours en Papouasie.
Oui, ils t'ont pas bouffé, t'as tout encore, là c'est bon. Hein.
C'est parce que je t'ai dit, je suis monté fin. Ils ont dit, bon, celui-là...
Il n'y a rien à manger, on va le laisser.
Il n'y en aura jamais assez pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai, t'as vraiment vécu ça?
Oui, c'était un moment assez inoubliable, hein, tu penses. Chez les Maasai...
Tout le monde de l'invisible, tout le domaine un petit peu spirituel qu'on a un peu perdu justement ici, c'est fort chez eux.
Dernièrement, là je rentre du Cambodge, et là-bas, la religion, elle est prégnante, c'est-à-dire que c'est des gestes quotidiens, ça prend 10 secondes d'aller mettre, en Birmanie, ils ont rien, mais dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vont acheter des toutes petites feuilles d'or, ça fait 1 cm², 1 micron d'épaisseur, et ils vont les appliquer sur les Bouddhas, dans les temples. Dès qu'ils ont un peu d'argent.
Un signe comme ça avec l'au-delà, l'invisible,
toujours,
on est toujours en contact avec
eux. Au Tibet, il y a des rouleaux à prière partout, bof, ils passent, boum, ils font tourner les rouleaux à prière.
Discuter, rencontrer ces gens-là, ça t'a pas amené à peut-être te poser plus de questions sur la vie après la vie ou des choses comme ça ou...
Je suis tellement occupé à vivre chaque seconde d'aujourd'hui que je verrai plus tard. Encore une fois, j'aime bien que ça reste dans la nuit. S'il y a quelque chose, je le verrai bien à ce moment-là. Mais je reste open à ça parce que je connais des gens qui ont la femme d'un ami qui a un talent particulier.
C'est-à-dire ?
En fait, ça ressemble assez au film Ghost.
C'est-à-dire ?
Les morts lui parlent.
La femme d'un ami ?
Ouais. Puis elle, je la connais bien, elle est dans le monde concret, vraiment. C'est pas une affabulatrice, je la connais vraiment bien.
Elle en fait pas son métier, en plus.
Surtout pas, parce que c'est une vraie pollution pour elle. Elle est, à chaque fois qu'elle fait ça, c'est pour rendre service, mais après, elle est cuite, elle est complètement... Et elle veut surtout pas, elle veut pas que ça sache. Et ça l'emmerde plutôt qu'autre chose. Mais apparemment, les morts l'identifient comme un haut-parleur, comme un passage, une personne qui peut faire le passage et transmettre les messages. Elle évite tous les lieux de religion dans le monde entier parce que sinon, elle se fait assaillir.
Non.
Si.
Tu as dit qu'elle rendait service, c'est-à-dire qu'on fait appel à elle pour quoi, des enquêtes.
C'est juste dans la sphère privée, ses D'accord. amis ou des gens qui vont pas bien ou etc. Ou là, si ça peut aider, voilà.
C'est énorme ce que tu dis quand même.
Oui, hein, n'est-ce pas? J'en ai conscience, mais c'est un fait.
Donc il y a une vie après la vie. Alors si tu discutes avec elle, tu te poses même pas la question.
Ouais.
D'accord.
Mais je veux pas en savoir plus.
ça te fait un peu peur, non?
Non, c'est pas la peur, c'est que j'ai pas envie de savoir.
Ça sert à rien, tu verras bien, quoi.
Je suis occupé par aujourd'hui. Quand la lumière va s'éteindre,
on verra bien. De toute façon. Mais pour en revenir à cette amie, ça lui est arrivé quand? Elle a découvert ça sur le tard? Ça lui est arrivé d'un coup?
On en a pas discuté, mais je crois qu'elle a toujours eu ça. Il me semble me souvenir qu'elle avait dit ça au détour d'une phrase. Je crois qu'elle a toujours vécu ça. Enfin, elle a toujours eu ça en elle.
Ah, c'est incroyable. Et si elle veut témoigner anonymement dans nos émissions, alors ça, c'est sans anonymement, on ne donnera pas son prénom, ce serait vraiment...
J'en parlerai.
On est tout à fait à l'écoute, justement, de pas forcément aller voir des gens qui sont dedans, spécialistes, mais des gens qui vivent tout à fait normalement. Et ça s'impose à eux. Et c'est exactement dans la lignée de ce qu'on veut dire.
J'avais bien compris, oui.
Il y a autre chose, on vous le montre. on vous le dit, mais on n'est pas, on fait pas de prosélytisme. Simplement, il y a des choses qui nous interpellent.
Ouais. Ben, écoute, voilà.
Enfin, voilà, en tout cas, on sait jamais. Enfin,
ça, ça c'est un fait. Je la crois parce que, voilà, parce que c'est, d'accord, parce que je la connais bien.
Et puis, il n'en fait pas commerce.
Surtout pas. Non, non, voilà. ça l'emmerde. Si elle pouvait ne pas avoir ce don.
Pourriez enfin, couper le son, s'il vous plaît, là. Pour
mais je pense qu'elle doit le vivre un peu comme ça, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'elle fait gaffe où elle va. Elle évite les lieux de culte, les cimetières. En tout cas, quand il y en a un, elle sait qu'il y en a un. Même si elle le voit pas, elle le sait.
Moi, ce que je trouve fabuleux dans ce que tu nous dis, c'est d'abord la force que tu as. Franchement, je suis impressionné par cette force qui, en 6 mois, te permet. Non, c'est vrai, sincèrement. Qui te
mais ça, c'est la rage.
Ouais, mais t'es un homme en colère, en fait.
Ah ouais.
T'es un homme en colère.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis en colère, ouais. Ouais. Là, ça se voit pas trop. Parce que.
Mais si, ça se voit dans ton regard. T'es un homme en colère, mais en colère contre
la connerie humaine. Je trouve complètement.
Ça m'étonne pas que Baffy soit ton ami.
Ça
m'étonne pas.
On s'entend bien, mais je trouve ça tellement du gâchis. Et j'aime pas le gâchis. Et je trouve ça tellement du gâchis de savoir ce dont le cerveau humain est capable.
Alors, je t'arrête tout. Quelle est la limite pour toi du cerveau humain? Jusqu'où on peut, je sais pas, modifier la matière physique dont on est constitué? Jusqu'où on peut aller avec le cerveau? On peut se sublimer jusqu'où?
Ben, je pense que c'est la planète à conquérir, hein, le cerveau humain. On avance à tout petit pas, mais je suis absolument persuadé qu'on a des capacités. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est je suis convaincu qu'on a des capacités, que notre cerveau a des capacités dont on ne se sert pas. Bon, tout le monde le sait. Enfin, il est commun de dire qu'on sert que de 10%. Mmh. Bon, j'en sais rien. J'ai pas été vérifié. Hein. Mais en tout cas. J'observe, je vois, et j'ai vécu la rage. Bon, c'était un truc qui m'a habité.
C'est une énergie finalement.
Non, mais m'a inondé et puis qui a fait phosphorer mon cerveau d'une façon que je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il fonctionne, mais le fait est qu'il a rendu une copie impeccable. Hein, je peux te dire. Donc, faut le nourrir quelque part aussi, et on le nourrit de ses émotions. Moi, j'apprends à piloter ma propre machine. Je fais pas du tout de prosélytisme parce que j'ai horreur de ça. Je vois à peu près comment je fonctionne. Ça, c'est l'avantage de l'âge, parce qu'il en faut bien. Mais j'essaye d'en faire encore plus.
Mais comment pas de méditation, pas d'auto-hypnose,
faudrait
pas de choses comme ça.
Faudrait que je m'y mette dans la méditation, mais je suis trop dans l'action pour y passer du temps. Il faudrait que j'ai un autre accident. Putain, je croise les doigts.
Bon bah, amenez-moi une batte de baseball, on va s'occuper tout de suite. On va le faire progresser, Alexandre.
Non mais j'ai parlé beaucoup avec Jean-Marie Bigard, qui est un adepte convaincu de la méditation, qui avait essayé de nous convaincre à fond là-dedans. Mais bon, j'ai jamais fait ça. En même temps, j'ai eu recours à l'auto-hypnose. Tiens, maintenant que tu m'y fais penser, mais c'est peut-être ça aussi la méditation. J'en sais rien.
Ça ressemble.
Pour récupérer mon gros orteil quand j'étais sur mon lit d'hôpital. Mon gros orteil qui marchait plus. Alors, tu me diras, je pense que tu vois.
Pour tirer les corners, c'est embêtant, quoi. Mais bon, à part ça, on peut s'en passer.
Sachant
quoi.
Que j'ai les pieds carrés, j'aurais rien perdu de ma carrière de footballeur. Il y a un mec qui est venu me voir qui était hypnotiseur. Bon, alors pareil, c'est des mots qui sentent le cirque.
Hein. Oui, mais il y a de l'hypnotisme médical. On a reçu Jean Becquiot, d'ailleurs, la semaine dernière.
Je te parle de ça, c'était en 96. Hein.
Ouais, mais c'était
donc on était plus dans le monde du spectacle, hein, déjà.
Ouais, c'est vrai.
Et le mec est venu me voir, Danny Dan, pour ne pas le...
Danny Dan, oui, c'est un homme de spectacle, ça, d'accord.
Bah, voilà. Ah, oui. Et il est venu me voir, moi, je ne connaissais pas. Hein. Il m'a dit, voilà, je viens te voir pour essayer de te rendre service. T'y crois pas, mais voilà. Déjà, il voulait essayer de me donner un peu d'énergie et tout. Puis je lui dis, tu vois, j'ai ce problème avec l'orteil, j'arrive plus à le bouger. Et ben, il me dit, voilà. Il m'a donné une technique. Je l'ai fait. Une semaine plus tard, tout était rentré dans l'ordre.
Ah ouais?
Ouais.
Bah, faut nous en dire plus. Quelle technique?
Ah ben, c'est tout con. Il m'a fait un parallèle avec l'autoroute A6.
On revient sur la route avec
15,
toi, hein,
au 15 juillet, je suis pilote.
Ça, c'est, ouais, t'es hyper.
J'ai pas été pilote d'avion, mais je suis pilote.
Paris-Dakar 2004 avec
Joanneau. Oui, non, mais je suis motard, j'adore le pilotage, c'est vraiment mon truc. Voilà. Et donc, imagine l'autoroute A6 le 14 juillet, le week-end du 14 juillet, d'accord? Et ben, il me dit, ton nerf principal, l'influx qui part de ton cerveau vers ton gros orteil, utilise depuis ta naissance toujours le même itinéraire, sempiternellement, le nerf sciatique, etc. Il dit, mais t'as plein d'autres nerfs, un réseau secondaire, et quand il y a une coupure sur l'autoroute A6, t'as l'itinéraire bis. À toi de démerde-toi pour guider ton influx nerveux de ton cerveau à ton orteil et de lui faire prendre une autre route. Eh ben, j'ai visualisé ça. C'était épuisant. Je faisais ça une heure par jour. Facile, même peut-être plus. Et j'imaginais mon cerveau comme une mon influx nerveux comme une boule de lumière qui partait de mon cerveau et qui passait par d'autres zones de mon corps. Alors je voyais mon corps de l'intérieur, mais l'idée que je m'en faisais.
Mais t'avais pas une carte précise, tu dis je vais passer par ce nerf et tout. C'était juste un autre chemin.
Non, c'était juste une imagination. En me disant, je vais passer par autre part que le nerf sciatique, donc je me l'imaginais, le nerf sciatique, et je vais passer par ailleurs, crac, et jusqu'au bout. Mais alors, le fait de l'imaginer, ça me prenait vachement de temps, le chemin. Et hop, répétition, je faisais ça sans arrêt. Au bout d'une semaine, j'avais tout récupéré.
Alors ça?
Me demande pas comment.
Ça, c'est de l'hypnose médicale, mais ouais, en fait, c'est de l'hypnose spectacle, c'est de l'auto-hypnose, tout
ouais,
à
c'est
fait.
C'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le cerveau est capable de faire des choses incroyables, mais il faut vraiment y mettre du sien. Tu vois, la rage, moi, j'en suis sorti. C'est une émotion très puissante. J'ai mis énormément d'énergie. Et là, pareil, pour récupérer mon gros orteil, j'ai mis énormément d'énergie.
Ça marche avec le sexe, il paraît aussi. Tu y concentres bien, et ça peut le faire bouger.
Ouais. Je pense. Mais ça peut marcher dans
tous les cas, non.
Dans beaucoup de choses. Mais il faut y mettre une putain d'énergie. Il y a pas d'autre mot.
Et on dit que l'imagination est plus forte que la volonté. Là, tu l'as imaginé, tu l'as pas voulu, tu l'as juste imaginé.
Oui, parce que je crois, enfin, le concret, c'est bien, mais prenons un peu de hauteur. Je veux dire, on est capable, justement, le cerveau humain est capable de ça. Et faut pas rester terre à terre et au premier degré. Faut pas rester dans le concret. Faut juste en imaginant, on guide. Voilà. On a une influence. À partir de là, je crois aussi à la télépathie. Voilà, il y a plein de choses, mais il faut y mettre énormément. Beaucoup, voire plus.
De volonté, oui, mais c'est fatigant. Pour avoir beaucoup,
c'est très fatigant.
Pour avoir beaucoup, effectivement, méditer, faire des choses comme ça, ça demande une énergie qui est difficilement... on peut difficilement le mettre quand on a une vie, je dirais, classique, parce que là, t'étais sur un lit allongé, t'avais le temps, tu prenais le temps, ça demandait beaucoup d'énergie.
Je crois que tu as raison, effectivement, il faut être dans une situation... au sens étymologique, exceptionnel. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien le pilotage. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est une passion chez moi. C'est parce que tu es dans une situation en pilotage, notamment moto, où le risque est là, le risque physique, même si t'es sur un circuit, tu peux quand même te casser la gueule et te faire mal. Donc il y a une situation de risque et c'est un vrai paradoxe parce que dans cette situation hurlante, on va dire, tu dois rester précis et concentré. Et j'adore ça.
Et totalement relâché.
Aussi. Et tu dois avoir une hyper-conscience de ce que tu fais quand t'arrives, j'en sais rien. Si la police écoute, tant pis. Mais moi, un de mes kiffs préférés, c'était de passer entre les bagnoles à 210 km/h sous le tunnel de la Défense.
D'accord.
Avec la musique de Matrix dans les oreilles.
D'accord.
Voilà. Et là...
Tu parles au passé, là.
Oui. Il y a pas si longtemps que ça, mais je veux dire, là t'as pas le droit à l'erreur, là t'es en hyper concentration, tout est réuni en un point microscopique.
Tu es dans la zone.
Je suis dans la zone quantique, dans l'infiniment petit en termes de précision et dans l'infiniment grand en termes d'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Ça hurle, c'est dangereux, il y a la peur qui est là et toi tu es avec ton cerveau face à ça et tu fais ce que tu as décidé de faire. Et quelque part, l'environnement, tu arrives à le dominer. Alors évidemment, pour la sécurité routière, entendre un truc pareil, ils vont s'arracher les cheveux. Mais
rouler à 110 sans être attentif, c'est beaucoup plus dangereux que de rouler à 160 bien concentré.
On est bien d'accord.
Hein.
Ah oui, complètement. Hein. Ceux qui disent le contraire n'ont jamais vécu ça et de toute façon c'est politiquement incorrect que de le dire, mais j'avoue avoir une haine farouche contre le politiquement correct ou incorrect.
Ouais.
Voilà. Encore, vive la liberté.
Encore une rage.
Sans
encore
rage, oui, absolument. Ouais. Vive la liberté en n'oubliant pas que la liberté s'arrête.
Ou celle des autres commence.
Exactement.
Dis donc Alexandre, avec tout ce que tu me dis, parce que je croyais te connaître et les auditeurs aussi peut-être, mais moi je te découvre. Alors, si je résume, à 14 ans, tu sors premier donc de ta promo pour rentrer à l'armée, pour être pilote de chasse.
Ouais.
Tu crées ta radio, le petit coup de pouce, t'es repéré pour rentrer à M6. T'as des qualités, t'as du talent.
À énergie.
À énergie d'abord, et puis ensuite à M6. T'as des qualités, du talent, un don, tu rentres à M6. On vient te chercher pour aller à TF1, tu y vas donc pour une autre émission, puis finalement, tu es pris sur une autre. T'as un accident... En 2 ans, en 6 mois, tu fais ce que tu devais faire en 2 ans. T'arrives à refaire bouger ton pouce en te concentrant. Tu as terminé en 2009 premier d'un concours d'un grand jeu animateur à TF1. Où il faut, je vais te dire si je t'en parle, c'est que je connais ces jeux.
C'est pas le prix Nobel. Hein.
Non, c'est pas le prix Nobel, mais tu as du monde, t'as des questions, faut répondre vite, faut avoir accès rapidement aux informations dont tu disposes dans le cerveau. Et l'air de rien, t'as quand même des journalistes, des machins, tout ce que tu veux.
Ah, il y a du beau monde.
Il y a du beau monde. Tu termines premier, donc pas de fausse modestie.
Deux fois.
Tu serais pas un peu surdoué?
Non, pas du tout.
Mais tu fais appel à des connaissances.
Non, je suis juste à fond dans ce que je fais. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, le grand concours des animateurs.
C'est
un exemple, mais c'est amusant en même temps. J'y vais parce que c'est marrant. Et puis j'aime bien. Et puis à chaque fois que je gagne, j'adore parce que c'est un pied de nez à ce fameux moment de rock'n'roll du 13e étage.
Bien sûr.
En 97, après l'accident, où j'ai dit, vous m'avez voulu, ça y est, vous m'avez. Sauf que là, ça les arrange pas. Je suis pas de la maison. Donc, je trouve ça rigolo de venir à la pêche. Et puis, mais bon. C'est juste une question d'énergie. Il faut y mettre beaucoup du sien, quoi. Mais ça marche pas à tous les coups non plus. Hein.
Quand ça marche pas, tu te remets en question. Tu dis qu'est-ce que j'ai mal fait, ou j'y ai pas été assez à fond, ou j'étais pas assez impliqué.
Non, mais il y a pas que ça aussi.
Dans quel moment de ta vie ça a pas marché, ça, où tu te dis je l'ai fait à fond et puis ça marche pas.
Bon, alors là, dans un paquet, c'est la majeure partie du temps.
Ah merde, ça c'est pas bien ça.
Mais c'est pas de l'arithmétique, hein, la vie.
Est-ce que tu as identifié pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est simplement le destin qui dit
j'analyse pas. Moi je fais tout à l'instinct. Je suis un instinctif. Je pilote instinctivement, même si j'ai quand même appris la technique. Mais je ramène tout au pilotage parce que finalement, ma vie c'est ça.
Sens pas que de temps en temps, quand tu fais des choses qui sortent de l'ordinaire, je vais pas dire extraordinaire, on te le donne un peu, t'es un peu branché quand même.
Écoute, bon, ok. Ça, normalement, c'est un truc il faut pas le montrer, mais à toi, je peux. En plus, c'est de la radio.
Donc, c'est autour de ton cou, tu as une... La pierre de Dzi.
Ramenée du Tibet.
Ouais.
Et c'est la plus grosse protection qui soit sur la planète.
Vas-y, explique.
On y croit ou si on n'y croit pas.
D'accord. La pierre de Dzi.
Ouais.
On te l'a donnée dans un moment rituel?
Je me la suis procurée.
Pierre de Dzi qui vient du Tibet, tu te sens un peu protégé avec ça depuis?
Je prends toujours l'exemple de la moto parce que c'est... moi, c'est partie intégrante de ma vie. Sans moto, je serais extrêmement malheureux.
Avec un accident comme tu as eu, souvent on laisse tomber. On tombe de cheval, mais là on n'y retourne plus.
Non, mais j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai commis. J'ai pas commis de faute. J'en suis absolument certain. Je suis passé, repassé là où j'ai eu l'accident. C'est pas possible. De toute façon, c'est un tel plaisir pour moi. Et c'est vrai que parfois. Enfin, moi, je suis bien connu de mes potes avec qui je fais de la moto. Ils savent que en gros je suis prêt à mourir quoi pour être devant.
D'accord.
Mais je meurs pas.
C'est Frentar dans le Joe Bartim. Je sais pas si vous connaissez, vous qui nous écoutez la BD, c'est génial. Il y a Frentar, faut freiner le plus tard possible. C'est un peu dans cet esprit. Et tu te sens un peu protégé quand même.
Ouais. Et tu sais, j'ai peur à moto. Tu sais quand?
Quand tu roules doucement.
Avant de monter dessus.
Ah ouais. T'es vraiment pilote dans l'âme, toi, parce qu'une fois que t'es dessus, c'est fini, quoi.
Bah ouais, j'ai découvert ça trop tard, malheureusement, mais j'aurais adoré. Tu vois, je pensais pilote de chasse, mais finalement, pilote moto, ça aurait été un rêve pour moi, j'ai fait de la course automobile où je suis pas maladroit.
Oui, mais dis-moi, t'as fait le trophée Andros, t'as fait le Dakar, fait le Star Team à l'époque.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que tu es plus à la recherche de ce moment où t'es dans la zone de concentration plus que la victoire.
Oui.
Dans le rallye, t'aurais été excellent.
Mais j'adore ça. Mais j'adore ça. J'adore.
T'as personne à battre. T'as juste à donner le meilleur de toi-même. C'est ça. C'est toi, ça, en fait.
Ouais, j'adore ça.
Sublimer.
Ouais, gagner les honneurs de la victoire, le truc, le machin. J'aime pas. De toute façon, j'aime pas être mis en avant. C'est pour ça que la radio me va bien. Parce qu'on te voit pas, t'es planqué.
On est bien, là. Hein.
Ouais, c'est top. C'est bien. Mais j'aime pas être mis en avant. En revanche, j'aime bien être devant. Devant, mais à la limite, voilà.
Le meilleur de toi-même.
Moi, à moto, je suis tout en noir. Mon casque est noir, ma visière est noire. J'adore ça. Personne ne sait qui est là. Et après, on voit ce qu'on voit. C'est juste ce qui se passe.
Comme ça a dû être dur, finalement, cette période à TF1 où t'étais devant, où t'étais montré.
Ah, mais tu peux pas savoir.
Non, mais ça paraît fou.
Quand je te dis que je dormais pas la veille des enregistrements, et puis je me regardais jamais à la télé. Ça a été très, 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 très dur. La télé, c'est bien quand tu fais, c'est vachement bien quand tu fais ce que tu aimes. C'est ce que je fais aujourd'hui.
Ouais.
Je fais une émission de voyage motorisée où je m'éclate.
Sur quelle chaîne?
Motors TV.
Motors
et
TV,
Montagne
d'accord.
TV qui prend aussi. Et je baroude avec mon équipe, on est deux. Ça commence à faire une équipe.
Une équipe, hein.
Et c'est mon pote depuis plus de 20 ans, qui est un réalisateur de génie et de talent, qui fait des images absolument merveilleuses. On fait ça artisanalement et on s'éclate. Et
c'est quoi, 26 minutes, un 52 ?
26, on fait 26. Du 26.
D'accord.
C'est plus simple. Et puis,
vous partez deux mois pour faire un 26, c'est pas un peu exagéré ça ?
On part entre une semaine et deux semaines.
D'accord.
Voilà,
ah, c'est génial.
C'est la belle vie, c'est bien. Moi, je suis vachement, je remercie tous les soirs.
Moi, quand j'ouvre la fenêtre le matin, je dis toujours bonjour la vie.
Ah, ça, j'y pense pas. Mais moi, je dis merci avant de dormir.
Ah ouais, c'est chacun son truc.
Je préfère le faire avant parce qu'on sait jamais ce qui peut passer à la nuit. Ça se trouve, je vais passer l'arme à gauche, je vais dormir dans mon. Putain, si un jour je meurs dans mon lit, ce serait une grosse déception.
Ah ouais, toi, c'est sur une moto ou au volant. Quelque chose comme ça, quoi.
Ah, moto, ça aurait de la gueule.
Ouais. Le plus tard possible.
Hein. Oui, on bien va sûr.
Quand même. Le raid
et devant.
C'est étonnant quand même, cette envie d'être devant, en fait, alors que tu recherches pas forcément.
On est tous des winners, hein. Je ne sais plus quel humoriste avait sorti ça, mais il faut pas oublier que le spermatozoïde dont on est issu a été quand même un gagnant, hein.
Et t'es arrivé le premier.
Exactement. Alors, je voudrais pas dire, mais on a tous gagné quelque part, hein.
T'as raison. Alors, pour revenir au raid Amazon, l'arbre vert étant le sponsor.
Tu passes donc du spermatozoïde oui. au raid Amazon.
Au raid Amazon.
Je pense que cette liaison peut être considérée comme dangereuse, mais.
Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Spermatozoïdes. Moi, d'Amazon, tu veux que je trouve le lien, je vais en trouver. Hein.
Bah non, mais je le vois, oui. Ça n'est pas du tout ce que tu crois.
Le prochain, c'est où et quand ?
Alors, j'y travaille. Ah, tu veux un scoop ? Écoute, ouais. Je rentre du Cambodge. Pays merveilleux que j'avais quitté il y a 16 ans, que j'ai retrouvé idem, à part Siem Reap où il y a 500 hôtels qui ont poussé. Mais dès que, c'est un pays qui n'a pas changé, qui est toujours le même. Les gens, c'est toujours le pays du sourire. Enfin, c'est un truc ineffable, inexplicable, il faut y aller. Il y a plein de Français, des gens super. Tous les Français. Alors, je voyage énormément. Et les meilleurs Français que je rencontre, ben, ils sont malheureusement tous partis, quoi. Ils sont tous à l'extérieur, c'est tous ces expats.
C'est pas sympa pour nous, ça, hein. On est restés là.
Il y a des exceptions. Ah, hein.
Merci, ça va.
Pour dire que tous les Français que j'ai rencontrés à l'extérieur des frontières, c'est des gens d'abord qui sont heureux de vivre là où ils sont. Pour rien au monde, ils rentreraient en France, et je trouve ça malheureux. Et c'est des gens qui sont extrêmement entrepreneurs, entreprenants, qui ont plein d'énergie et qui ont malheureusement quitté le pays parce que ils ont bien vu que ils pourraient pas avoir ce qu'ils méritaient par rapport au travail qu'ils étaient prêts à fournir avec leur talent.
D'accord.
Et donc ils ont préféré aller planter leurs choux ailleurs en disant que la récolte serait meilleure et malheureusement elle l'est. Alors, est-ce que ça changera un jour? Ça, c'est de la politique. Je rentre pas là-dedans. Ça m'emmerde. J'ai jamais voté. Je le dis, je le revendique et j'en ai pas honte. Même si on dit qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote, quand je vois ce qu'on en fait, eh ben, je me dis que quelque part, j'ai bien fait. Ou alors, j'irai voter blanc le jour où ce sera comptabilisé. Mais alors, à ce moment-là, tous les présidents vont s'appeler blanc. Michel le premier.
J'y vais, mais j'ai peur. Michel Blanc, je suis pas sûr quand même, hein.
Bah, je pense pas qu'il vaudrait y aller, hein.
Et c'est quand alors ce raid ? Le prochain c'est au mois d'août ?
Novembre.
Ah bon, je croyais que c'était au mois d'août. Novembre 2014.
Non, c'est toujours en fin d'année.
D'accord.
Novembre 2014, a priori ce sera le Cambodge. Je croise les doigts, je touche du bois en disant ça. A priori ce sera le Cambodge.
On pourra voir ça sur quelle chaîne, des images ?
Je passe mes images partout, sur toutes les chaînes. J'ai un partenariat depuis 4 ans maintenant avec RMC BFM TV. Donc BFM TV nous passe beaucoup d'images pendant le raid. Et sinon toutes les chaînes, un peu dans toutes les émissions, nous prennent des images. Donc voilà. C'est un événement qui est devenu connu, vraiment très connu, ça me fait plaisir. Incontournable pour pas mal de filles dont c'est le rêve d'y participer. Ça me fait extrêmement plaisir également. Et puis ce qui me fait plaisir, tu as dit tout à l'heure, c'est le nombre de nanas qui reviennent, quoi.
Ouais, 50% qui ont déjà fait
en fait,
un raid.
Elles viendraient toutes à 100%, mais après, il faut trouver les sponsors, parce qu'évidemment, c'est payant quand même. Il faut trouver les sponsors, puis il y en a plein qui font un bébé entre-temps, qui changent de boulot.
Ah, ça, c'est un problème, les bébés, ça, franchement.
Bah, ça dépend pour qui, hein. On est bien content d'avoir été un bébé à un moment donné.
Ouais, c'est vrai.
mais c'est vrai que elles adorent cet événement, ce raid. Moi, j'en suis ravi. Et je suis surtout très fier de ce qu'elles y apportent. Voilà, et de ce qu'elles en font. Voilà.
Alexandre Debanne, merci beaucoup.
Merci à toi, parce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas cru dire un jour. T'es un bon accoucheur.
moi j'ai pris un plaisir fou à t'écouter. Ouais. Et franchement, une force incroyable. J'espère en avoir appris un petit peu, parce que quelques semaines.
Je ne fais pas du tout de prosélytisme. Tu m'as posé des questions sur mon cas. J'ai juste évoqué mon cas. Maintenant, je ne donne aucune direction. Il n'y a pas de panneau indicateur. C'est faites du mieux que vous pouvez. Simplement, voilà, essayez de vous attacher à vos envies et puis mettez toute votre énergie dans des choses auxquelles vous croyez. Et puis, sans croire forcément à l'arithmétique, normalement, même si ça marche pas le premier, le deuxième, peut-être même jusqu'au dixième coup, au bout d'un moment, ça va marcher.
C'est pas parce qu'on a échoué une fois que ça marchera jamais.
Et puis, faut pas écouter les sirènes. Voilà. Et éteignez la télé.
Merci.
Écoutez la radio.
Salut, au revoir.
Salut Yves.
Les connus face à l'inconnu. Tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.